VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Dans une dizaine de minutes, Sahel Plus avec Léo Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Stupeur en Guinée, le général Sékouba Konaté, ancien président par intérim de la République, risque 5 ans de prison aux États-Unis. Le général Konaté a en effet plaidé coupable hier de contrebande d'espèces devant un tribunal de l'État de Virginie. Nicolas Pinault.
Oui, Sékouba Konaté aura échappé plus de 2 ans à la justice américaine en raison de son statut diplomatique. Les faits remontent à 2013 à l'aéroport international de Dulles, près de Washington. À l'époque, chef des opérations de paix de l'Union africaine, venant d'Éthiopie, il avait déclaré aux douaniers américains ne transporter que 10 000 dollars en cash, soit la limite autorisée. Mais les douaniers vont découvrir, au total, 64 000 dollars en espèces dans les bagages de l'ancien président intérimaire de la Guinée. Hier, devant le tribunal d'Alexandria, en Virginie, il a plaidé coupable de contrebande d'espèces aux États-Unis. Un agent des douanes américaines a témoigné en précisant qu'il a eu des suspicions sur le haut gradé guinéen en raison de ses propriétés achetées en Caroline du Nord. Déjà, des soupçons de corruption pèsent sur lui lorsqu'il était au pouvoir à Conakry en 2010. Sékouba Konaté encourt jusqu'à 5 ans de prison. Sa peine sera connue en février prochain.
Les États-Unis ont annoncé mardi l'adoption de sanctions financières contre 2 responsables du groupe islamiste Boko Haram. Mohamed Nour, de nationalité nigériane, est accusé par Washington d'avoir été un des organisateurs de l'attentat contre un bâtiment de l'ONU à Abuja en 2011. Ses éventuels avoirs aux États-Unis seront gelés et il est interdit à toute société aux ressortissants américains de commercer avec lui. Également sanctionné, Mustafa Tchad, de nationalité tchadienne, qui aurait mené des attaques au Nigeria. Au Nigeria même, le conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, arrêté hier avec d'autres suspects dans un vaste scandale de corruption sur des contrats d'armement. Sambo Dasuki, âgé de 60 ans, est soupçonné d'avoir conclu 2 milliards de dollars de contrats fictifs d'armement, notamment pour l'achat de 4 avions, 12 hélicoptères et des munitions. Au Burkina Faso, le président élu Roch Marc Christian Kabore est toujours dans l'attente des résultats des législatives pour connaître sa marge de manœuvre en vue de mener sa politique de développement. Les résultats de ce scrutin à un tour à la proportionnelle par circonscription devraient être connus aujourd'hui même selon une source au sein de la Commission électorale nationale. Mais d'ores et déjà, le président Kabore a annoncé son intention de former un gouvernement d'ouverture. Une mesure bien accueillie par les Burkinabés, comme en témoigne ce micro-trottoir réalisé à Ouagadougou par notre correspondant Zoumana Wonogo.
Mademoiselle Muriel Zunti, et je pense que c'est une bonne chose. Déjà que ça fait combien d'ans déjà, on n'avait qu'un seul président. Nous, on n'a connu qu'un seul président. Et voilà qu'un nouveau président vient, un gouvernement d'ouverture. Ça permettra quand même à chacun de venir poser sa pierre pour qu'il y ait une bonne fondation déjà, pour que les choses avancent et que le fossé que certains avaient creusé puisse quand même être bouché. Moi, je pense bien que Zéphirin de l'UPC ferait un bon premier ministre parce qu'il a beaucoup de choses à nous donner et on va avancer avec les deux.
Jonas Nguyen, je suis le président du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso. Si le président le veut déjà, nous saluons cela. Il faut effectivement rassembler tous les Burkinabés. Il faut féliciter le candidat élu et saluer cette disponibilité d'esprit d'aller vers la réconciliation nationale de tous les Burkinabés, qui a été un souci majeur pour nous tous. Et nous pensons que c'est dans cet esprit-là que tous les Burkinabés devraient l'accompagner à réussir sa mission. Et en la matière, comme nous le disons maintenant au Burkina Faso, plus rien ne doit être comme avant. Dans ce sens aussi, il faut comprendre qu'il ne faut pas laisser le chef de l'État ou le gouvernement tout seul. Il faut savoir l'accompagner avec des propositions, avec des critiques constructives.
Enoch Bongongo. Le gouvernement d'ouverture, je pense que c'est tellement exceptionnel qu'on puisse faire la coalition de tout le monde, s'associer et puis travailler, s'unir, c'est une bonne chose, puisqu'on dit que l'union fait la force. Donc c'est bon aussi de travailler ensemble. Le gouvernement d'ouverture, là, je pense que ça ne peut pas tuer les opposants.
C'était le micro-trottoir réalisé dans les rues de Ouagadougou par notre correspondant Zoumana Wonogo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, le ministère de la Défense annonce aujourd'hui que les forces armées ont tué 100 de militants de Boko Haram et libéré 900 captifs détenus par le groupe islamiste lors d'une opération de 3 jours la semaine dernière dans l'extrême nord du pays à la frontière du Nigeria. Pas de confirmation de ce communiqué de sources indépendantes. Par ailleurs, 6 civils ont péri à la suite d'un double attentat suicide à Ouaza mardi dans l'extrême nord. 4 immédiatement, plus 2 blessés qui sont morts par la suite. 2 kamikazes se sont fait exploser dans 2 quartiers de Ouaza, a affirmé une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Information confirmée par la radio d'État camerounaise. Et puis en Centrafrique, pas de représailles après le meurtre d'un jeune musulman au quartier PK5, l'enclave musulmane de Bangui, moins de 24 heures après la visite triomphale du pape François et son appel à la réconciliation nationale. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Dans la petite mosquée Ali Babolo, au cœur du quartier PK5, l'arrivée du cadavre d'un jeune musulman a douché l'optimisme des fidèles. Zakaria, 35 ans, était le père de 3 enfants. Il se trouvait devant la mosquée Ibn Khattab lorsque des hommes armés lui ont tiré dessus. Selon plusieurs témoins, les tireurs étaient postés de l'autre côté du canal baptisé Essayez voir, qui sépare l'enclave musulmane des quartiers chrétiens de Bangui. Après ce meurtre, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalainga, s'est rendu en urgence au PK5 pour apporter son soutien aux populations, les appelant à ne pas céder aux provocations des ennemis de la paix. Créant un cycle de représailles, Ibrahim Hassan, porte-parole de la coordination des organisations musulmanes, a appelé sa communauté à ne pas tomber dans le piège. Depuis le mois de septembre, au moins 100 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires.
En RDC, réaction très acerbe du gouvernement congolais après le refus de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, d'Étienne Tshisekedi, de participer au dialogue national proposé par le président Joseph Kabila. Écoutons la réponse de Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais.
Il n'est pas approprié, nous le pensons, d'affirmer qu'en convoquant le dialogue politique inclusif, le président de la République serait à la fois juge et parti, comme nous l'avons lu dans ce communiqué. Le dialogue politique inclusif n'est pas un tribunal. Le dialogue politique inclusif national n'a pas pour fonction de juger ou de condamner qui que ce soit. Parce que le dialogue politique national ne poursuit qu'un objectif, celui de créer les conditions les meilleures pour le passage de notre pays à la prochaine législature. Point barre. On peut également poser à ceux qui contestent au président de la République le droit de convoquer le dialogue politique national la question de savoir pourquoi ils ne convoquent pas eux-mêmes ce dialogue s'ils en ont le moindre pouvoir.
Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Au Burundi, au moins 7 morts d'un policier et 12 blessés, tel est le bilan des violences à Bujumbura et dans sa province depuis mardi soir, selon des responsables locaux et des témoins. À Nyakabiga, quartier contestataire du centre de la capitale, des hommes armés ont attaqué une patrouille de police faisant un mort et 3 blessés parmi les forces de sécurité. Par ailleurs, les corps de 4 personnes ont été retrouvés ce matin dans les rues de Bujumbura, 3 dans le quartier de Mutakura et 1 dans celui limitrophe de Chibitoke. Les assassinats ciblés et les attaques contre la police ou des bars se multiplient depuis la controverse sur le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Et puis la tournée du président chinois Xi Jinping en Afrique continue après sa visite au Zimbabwe. Le président chinois est maintenant en Afrique du Sud où il co-présidera vendredi à Johannesburg le 6e sommet Chine-Afrique. Tatiana Mosso.
Le président chinois Xi Jinping aura d'abord des entretiens avec le président Jacob Zuma sur l'investissement et le commerce d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars par an. Le gouvernement sud-africain a déclaré que des accords bilatéraux devaient être conclus lors de la réunion entre les deux leaders, sachant que le déséquilibre des échanges est l'une des questions à discuter. Le dirigeant chinois rencontre vendredi ses homologues africains à Johannesburg pour le 6e sommet de la coopération sino-africaine. Les investissements chinois sur le continent ont chuté de 40% au premier semestre. Ces 15 dernières années, la Chine a acheté du pétrole, du fer, du cuivre à plusieurs pays africains, participant ainsi à la flambée des prix des matières premières. Mais le ralentissement de l'économie chinoise contribue à la chute des cours des matières premières et menace des pays africains hyper dépendants de leurs partenaires chinois. Toutefois, la Chine demeure le premier partenaire économique de l'Afrique.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.